Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Pop en stock dans sa mouture transatlantique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est donc moi, Hélène Després, qui va animer cet épisode. Nous allons discuter d'un sujet qui me semble paradoxalement plus d'actualité que jamais, la nostalgie dans les films en particulier, mais pas seulement, qui sont sortis dans la dernière année. Les films nostalgiques existent depuis toujours, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils envahissent nos écrans plus intensément depuis quelques temps. Peut-être qu'il s'agit du revers de l'apocalyptisme, hein, qui lui aussi nous obsède depuis un bon moment déjà. Est-ce que l'impression collective d'un présent catastrophique qui nous échappe et ou nous enferme n'aurait pas mené à deux imaginaires opposés, hein, le futur apocalyptique et le passé idéalisé? Et ce passé signifie le plus souvent pour les cinéastes de recréer le monde perdu de leur enfance, souvent idéalisé. Cette forme de nostalgie passe par l'esthétique, la technologie, la musique, la mode, les films. Autant des marqueurs qui permettent de recréer une époque et surtout de déclencher chez le spectateur un sentiment nostalgique partagé. C'est encore le cas dans plusieurs films cette année. Je pense au Naples des années 80 dans La main de Dieu de Paolo Sorrentino, à l'Irlande des années 60 dans Belfast de Kenneth Branagh, au Los Angeles des années 70 dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, à la France des années 50 et 60 dans French Dispatch de Wes Anderson, au New York des années 90 dans Tick, Tick, Boom de Lin-Manuel Miranda, ou encore le Midwest américain des années 30 dans le Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Donc, la liste est quand même assez longue. Autant d'exemples qu'on pourra aborder si vous en avez envie plus tard. Mais j'ai aussi remarqué l'émergence cette année de films qui questionnent cette nostalgie dans la narration même, ce qui permet une perspective un peu différente. Ce ne sont pas les films eux-mêmes qui sont nostalgiques, quoique, mais les personnages et leur nostalgie est problématique ou du moins problématisée. Je pense notamment à The Power of the Dog et Last Night in Soho, sur lesquels je vais revenir moi-même tantôt, mais aussi les derniers opus des franchises populaires, hein, comme Ghostbusters Afterlife ou Spider-Man No Way Home. Mais je m'arrête là pour le moment. Nous aurons sans aucun doute l'occasion d'y revenir et de définir un peu plus précisément ce qu'on entend par nostalgie. Et je vous présente donc notre panel d'aujourd'hui. D'abord, Katharina Niemeyer, qui est professeure à l'École des médias de l'UQAM et directrice du CELAT. Elle a récemment co-dirigé l'ouvrage « Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie » paru en 2021, mais aussi un dossier sur la nostalgie du présent dans la revue Cinéma à l'été 2021. Ensuite, nous avons Jean-François Chassé, professeur d'études littéraires également à l'UQAM, spécialiste de l'imaginaire des sciences et de la littérature américaine et québécoise, mais aussi grand passionné de cinéma, hein, qu'on a régulièrement aussi au podcast. Puis nous avons Mehdi Achouch, maître de conférences en études cinématographiques anglophones à l'Université Sorbonne-Paris-Nord et grand spécialiste de science-fiction et des représentations techno-utopiques autant au cinéma que dans les séries télé. Enfin, nous avons Louis-Paul Willis, professeur d'études cinématographiques, culturelles et médiatiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui étudie en particulier la réception filmique et médiatique à travers la narratologie, le féminisme, la psychanalyse et la cognition. Donc, commençons donc tout de suite en vous cédant la parole. Donc, j'ai très envie de vous entendre. Donc, d'abord, on va commencer par Katharina. Tu veux nous parler des différentes formes de nostalgie, comment on peut les classer, comment on peut en parler de manière plus générale.
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un moment que j'ai réfléchi sur la nostalgie. Donc, ça fait quand même presque 10 ans. Donc, comme tu l'as très bien dit au début, la nostalgie, le cinéma, ce n'est pas du tout nouveau, mais il y a peut-être quelque chose qui se joue ces dernières années, mais même depuis l'avènement du Web 2.0. Donc, aussi cette nostalgie, en fait, de l'analogique, je pense, sur lequel aussi on reviendra aujourd'hui. Mais peut-être avant tout, il faudrait le dire, puis tu l'as mentionné un peu, la pandémie a quand même accentué certaines formes de nostalgie. Je pense que... elle a brisé un certain rapport au temps, surtout au temps présent depuis 2 ans. Finalement, peut-être un présent qui n'est plus. Enfin, là, je ne veux pas dire évidemment que le présent existe, mais pas le présent qu'on s'était imaginé, qui aurait pu être ou de ce qu'il a été juste avant la pandémie. Donc, déjà là, je pense qu'il y a une sorte de vulnérabilité ou peut-être aussi ouverture vers la nostalgie qu'on a vu d'ailleurs dans les réseaux sociaux numériques au début de la pandémie, des partages sur Facebook, des photos d'enfance, etc. Et c'est quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout nouveau non plus. Il y a souvent dans l'histoire des réactions nostalgiques, soit à des crises ou à des formes de progrès, qu'on nous vend comme progrès, entre guillemets. Donc là, je pense que je vous invite surtout à regarder les travaux de Svetlana Boym, qui avait écrit « The Future of Nostalgia », où elle parle plus spécifiquement de ce rapport de la nostalgie aux crises ou à la question du progrès. Et puis la nostalgie, je pense aussi, c'est peut-être à retenir qu'elle est vraiment très, très proche aussi des questions de mélancolie historiquement. Puis ça aussi, ça revient dans le contexte de la pandémie. C'est vraiment une souffrance du temps présent, du être là à ce moment-là, mais qui se noue en fait en quelque sorte aussi à la nostalgie du passé qui en même temps aussi s'oriente vers le futur parce que justement le présent est suspendu. Et c'est à l'intérieur un peu de cette ambiance que l'on trouve justement l'intérêt, je pense, pour des films qui touchent à certaines formes de nostalgie. Et puis là, moi, je voulais vous proposer en fait de réfléchir un peu sur différentes formes de nostalgie en les séparant, mais évidemment, dans l'analyse filmique ou même dans l'univers filmique, ces formes de nostalgie peuvent s'enchevêtrer, se rencontrer, mais aussi se problématiser en quelque sorte. Parfois même, c'est des petites luttes là, qui peuvent se faire d'un point de vue esthétique ou diégétique ou narratif. Et puis la nostalgie, le cinéma, bah, évidemment, ce n'est pas nouveau, mais on observe bah, peut-être d'abord, on pourrait parler d'un premier volet qui serait plutôt l'esthétique nostalgique. Paul Grange a parlé dans les années 2000 en fait de l'ambiance nostalgique. Il disait en anglais nostalgic mood, qui en fait vient évidemment par des facteurs de grain ou de couleur dans le film ou les décors, etc. Bah ça, on le retrouve, je pense, que dans les films là, comme Belfast, mais aussi The Power of the Dog et puis l'ensemble des films qui, je pense, vont nous intéresser aujourd'hui, comme Ghostbusters Afterlife, etc. Et puis, on observe en même temps, et ça peut aller de pair avec cette esthétique nostalgique, et quand même aussi la question de la narration. Donc, depuis longtemps, en fait, on peut observer différentes formes d'expression ou d'expérience nostalgique dans les films. Mais peut-être, comme tu le disais au début, en introduction aussi, on voit ça davantage dans les films qui nous intéressent là, aujourd'hui ensemble à la table ronde, c'est-à-dire ces expressions vraiment aussi dans la narration ou dans la construction des personnages qui sont troubles et où finalement il y a une question nostalgique qui concerne soit un espace, un lieu, qui peut être un village, un paysage, etc., ou aussi une question de temporalité et qui renvoie à la question vraiment des origines de la nostalgie, une forme de mal du pays. Mais on peut avoir ce mal du pays en étant là où on est. Donc, on n'est pas forcément distancié de cet endroit. Donc là, c'est une chose extrêmement intéressante à regarder. C'est la question de se sentir à la maison, de se sentir appartenir, de trouver son identité. Et peut-être là aussi, la question nostalgie-mélancolie se mélange d'un point de vue psychologique si on regarde parfois des personnages. Je pense qu'il y a The Power of the Dog, puis d'autres exemples aussi. Un deuxième volet serait ce qu'on appelle dans notre jargon de chercheurs qui travaillent sur la nostalgie, la technostalgie, qui a aussi différents volets. La première serait la nostalgie de l'analogique, que l'on observe depuis quelques années, c'est-à-dire une forme de nostalgie qui peut s'exprimer pour des objets ou des technologies analogiques et qui vise soit les objets ou ces technologies en tant que telles, donc ce désir en fait de s'en resservir, de les voir, de les toucher, donc une forme de matérialité, mais aussi peut-être dans le contexte de l'accélération sociale où tout semble dématérialisé, le numérique n'est pas dématérialisé, hein. Il y a les serveurs quand même qui réchauffent quelque part, ça nous donne cette impression qu'il n'y a pas de matière, là. Mais il y a vraiment depuis les années 2000, surtout avec l'arrivée du Web 2.0, qu'on observe cette nostalgie de l'analogique. Puis elle se distingue aussi par l'esthétique. D'une part, soit les objets vont être mis en scène, les objets analogiques médiatiques vont être mis en scène dans les films, et vraiment être aussi esthétisé. Donc, on le voit dans l'ensemble des films, je pense, dont on va parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Cette nostalgie de l'analogique, qui fait donc partie de cette technostalgie, concerne aussi les rituels, soit de production, soit de réception. Donc, les personnes qui peuvent se réclamer nostalgiques, ça peut être des réalisatrices, les réalisateurs qui veulent utiliser le vieil artisanat cinématographique pour faire leurs films, peut-être se désemparer parfois du numérique, mais parfois aussi, ça peuvent être justement les spectatrices, spectateurs qui peut-être, par les rituels de consommation, si on veut le dire comme ça, réception, ne sont pas forcément en quête de l'objet analogique en tant que telle, mais de l'expérience vécue par rapport à ces objets. Et ça, on le voit aussi comme dans les séries télévisées comme Stranger Things, etc., la mise en scène du téléphone avant le cellulaire, etc. Donc finalement, ce qui fait partie de cette technostalgie-là ou de cette nostalgie de l'analogique, c'est aussi les façons de faire et l'ensemble des expériences quotidiennes et habitudes qu'on avait avec ces objets médiatiques-là. Et le cinéma les met en scène. Et ça, ben, je pense que c'est le cas dans plusieurs films qui nous intéressent. Par exemple, aussi dans Ghostbusters Afterlife, on le voit passablement. Et puis, deux derniers points, on peut aussi, et parce qu'on ne peut pas ne pas parler de la marchandisation de la nostalgie, que ce soit dans le contexte en général de la culture populaire, mais plus spécifiquement aussi par rapport au cinéma. On voit ça évidemment depuis très longtemps aussi. Bah déjà, par exemple, Ghostbusters Afterlife a été programmé pour Thanksgiving. Donc là, on sait que les familles regardent, probablement ensemble, ou les groupes d'amis. Donc, on peut appeler ça la nostalgie programmée ou pré-programmée par l'industrie médiatique. Puis là, on a par exemple la question, on sait très bien que, par exemple, Ghostbusters Afterlife, le Reitman des années 1980. Donc là, on est 40 ans plus tard. Là, certains collègues, comme Ryan Lizardi, on va parler de la nostalgie transgénérationnelle. Donc, l'industrie saute sur ça parce que les personnes qui ont regardé Ghostbusters dans les années 80 vont pouvoir, en fait, regarder cette nouvelle version, entre guillemets, avec leurs enfants. Puis, ça s'observe aussi de la même façon pour des séries télévisées comme Friends, des reruns ou autres. Donc là, Frederick Jameson en parlait déjà dans les années 90, justement, de cette marchandisation de la nostalgie, surtout aussi par rapport au cinéma. Donc, parfois aussi, il y a cette surenchère nostalgique sur le plan esthétique et le style qui cache peut-être parfois d'autres formes de nostalgie plus profondes que celles qui sont joyeuses ou ludiques d'un point de vue esthétique. Ça, on pourra peut-être en discuter aussi ensemble. Et dans cette nostalgie programmée, il y a aussi évidemment la question de la sérialité qui est là, les films qui reviennent ou qui sont des trilogies. On pense à La Guerre des Étoiles, mais aussi La Matrice, qui est quand même profondément nostalgique, la dernière version, où il y a beaucoup d'intertextualité, de jeux aussi avec les films d'avant. Donc, c'est quand même passionnant à trouver. Et puis, dans quand même l'ensemble aussi des films qui nous intéressent aujourd'hui, je pense qu'il y a cette quête de trouver quelque part une maison, une forme d'appartenance, en fait. Et puis là, le cinéma, évidemment, et ça, c'est mon quatrième et dernier point, je pense que ce qui est spécifique peut-être au cinéma par rapport à d'autres formes d'expression médiatique ou d'autres médias, c'est vraiment la question de l'écran, surtout le grand écran qui, pour moi, reste dans un double sens de la notion de projection, vraiment un espace de projection propice pour toute forme de nostalgie. D'une part, déjà, parce que c'est un espace de projection pour les personnes qui créent, mais aussi, évidemment, dans la salle de cinéma ou quand on regarde peut-être chez soi. Ça, c'est tout un autre aspect encore aussi. Il y a des nostalgies qui se confondent, les grands écrans, et on regarde finalement un film chez soi sur un plus petit écran. Mais cet espace de projection qu'il a depuis le début du cinéma, dans le fond, peut créer, en fait, différentes formes de projection nostalgique, toutes celles que je viens de dire, mais aussi le film en soi, que ce soit par l'esthétique, par tout ce qu'en fait peut advenir dans la diégèse, permet en fait de vraiment créer des formes d'anachronisme intéressants dans la diégèse, dans la narration, mais aussi dans l'ensemble de monter un film. Donc, pour moi, ça reste vraiment un espace de projection aussi pour des nostalgies beaucoup plus profondes, que je ne veux pas dire que les nostalgies esthétiques ne le sont pas, mais pour des nostalgies plus profondes qui sont vraiment des quêtes d'identité dans un temps et espace en fait suspendu. Et je pense là aussi, même le film Dune, qui aussi parle de cette quête en fait, et davantage d'une nostalgie du futur. Et je pense que les nostalgies du passé sont un peu parfois dépassées. C'est vraiment dans une quête, en fait, de s'appréhender d'un meilleur avenir. Et ça se voit aussi dans Belfast, là, au début, quand il faut décider qu'est-ce qu'on va faire. On veut un meilleur avenir pour nos enfants. Et puis là, on a des questions aussi de déplacement, de migration, de quête aussi, où est-ce qu'on va vivre, où on va aussi des problématiques, évidemment, comme dans Dune et d'autres films, de la solastagie, qui est plutôt l'éco-anxiété. Donc là, les formes de nostalgie aussi dans les films qui peuvent se nouer à cette question de la nostalgie du futur. Et puis peut-être là, pour finir, peut-être dire aussi, c'est un point qui me semble important, quand on parle de films nostalgiques ou de production nostalgique, surtout celle qui est programmée par l'industrie, ça ne veut pas dire que le public va ressentir de la nostalgie, c'est souvent confondu. Les publics peuvent ressentir, mais ce n'est pas forcément des films qu'on classe comme nostalgiques qui vont produire la nostalgie. Ça peut être toute forme d'autres productions cinématographiques.
Merci beaucoup, Katharina. En fait, ce que tu viens de dire, en fait, m'évoque dans la réception Est-ce que la réception est nostalgique ou pas, alors que l'intention l'est? Ce que c'est intéressant, c'est que ça soulève des questions de génération aussi. C'est-à-dire ce qui peut être nostalgique pour une génération, l'est pas forcément pour l'autre. Souvent, on va être nostalgique même pour des époques qu'on n'a pas connues.
Mais ça, c'est un point très intéressant. On voit quand même, je pense qu'on l'a tous déjà été, une nostalgique d'une époque que l'on n'a pas vécue. C'est justement là où l'espace de projection cinématographique, surtout, est très, très intéressante. Et beaucoup de jeunes, en fait, qui se projettent aussi dans un passé qui n'était pas numérique. La plupart des jeunes ne peuvent pas expérimenter aujourd'hui vraiment ce que c'est l'avant numérique, de vivre sans ces extensions, etc., comme pour nous, ça a été peut-être la télévision ou un autre média. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis cette nostalgie, elle n'est pas artificielle, elle fait partie d'une quête d'authenticité aussi, d'une quête d'identité. Et on l'a observé dans une recherche récente avec ma collègue Christine Tuer. On travaille sur les constructions identitaires des jeunes par rapport aux séries télévisées ou dans le révisionnement, en fait, connecté. Il y a un vrai rapport à la nostalgie, c'est-à-dire on va revoir des scènes qui réconfortent, etc. La nostalgie permet aussi de surmonter des moments de crise identitaire. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, justement, qui nous indiquent aussi être nostalgique d'une époque qu'elles ou ils n'ont pas vécue. Ça peut parfois aussi aller de pair, bien évidemment, avec une idéalisation du passé, parce qu'on sait très bien que parfois, il y a un peu une forme d'illusion d'un passé historique qu'on peut voir aussi au grand écran, mais ça, c'est encore une autre question. Évidemment.
J'ai vu les Courage Pizza dimanche dernier, puis on voit bien l'idée de la vie des jeunes sans téléphone, sans la capacité de se rejoindre les uns les autres. Donc, ça altère complètement leur rapport à l'espace puis leur rapport les uns aux autres.
Ça me faisait penser cette idée intergénérationnelle quand j'ai amené mes enfants voir Ghostbusters Afterlife. Dès le départ du film, il y a cette référence à Ivo Shandor, là, puis mes enfants ne pouvaient pas comprendre ça. Mais moi, tout de suite, je savais dans quel terrain on s'en allait. Ah, wow, OK, on revisite la mythologie du premier film. Bref, alors oui, je pense que c'est quelque chose de super intéressant que cette idée de l'intergénérationnalité là, dans la nostalgie.
C'est à la fois une incompréhension possible, c'est-à-dire que les autres générations n'ont pas forcément les codes, mais aussi une façon de partager quelque chose. C'est aussi une façon pour les autres générations d'entrer en communication avec les plus jeunes en leur montrant ce passé idéalisé-là, puis en les mettant en contact avec ce monde-là. On peut peut-être passer à Jean-François, justement, je pense qu'il va aborder certains de ces enjeux-là.
Ben moi, mon propos va faire d'abord le pont avec celui de Katharina, parce que je vais d'abord brièvement parler justement de la nostalgie et du rapport à la mélancolie. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai un rapport un peu ambivalent à la nostalgie quand elle sert, ce qui est parfois le cas, à décontextualiser le passé, hein, sur le principe de « c'était mieux avant ». Et à ce moment-là, le passé est une carte postale un peu figée, sans mouvement, comme si, voilà, c'était bien parce qu'on arrête sur les images qu'on veut. Par contre, j'aime bien la nostalgie quand je l'articule à la mélancolie comme vecteur de lucidité, peut-être un peu désespéré. C'est Jean Starobinski qui définissait la mélancolie en disant que c'est une mise à distance de la conscience face à une forme de désenchantement du monde. De ce point de vue-là, la nostalgie m'apparaît comme pouvant être pensée dialectiquement comme une sorte de relecture du passé à l'ombre de sa propre expérience. Dernier exemple, ancien Baudelaire sur le spleen disait « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. » Et pour moi, la nostalgie matinée de mélancolie, c'est un peu ce rapport contradictoire au monde. Alors, dans cet esprit-là, je vais parler d'un film récent, donc je fais aussi le pont avec Katharina, puisque elle a parlé un peu de Belfast, je vais en parler, Belfast de Kenneth Branagh. À la fin, je vais conclure avec un film plus ancien, qui est dans un cadre tout à fait différent, mais que je n'avais jamais vu. J'ai vu dernièrement, et je pense que malgré l'abîme de différences culturelles, il y a des liens intéressants par rapport à la nostalgie. Alors, à propos de Belfast, de Branagh. Bon, le titre met l'accent sur une ville, et comme on est en 1969, on ne peut pas faire autrement que faire le lien avec les troubles en Irlande du Nord, dont Belfast est l'épicentre. Et la première scène, en fait, ne fait qu'entériner cette impression qu'on va être devant un film politique qui est potentiellement violent. On est en août 1969, et des loyalistes protestants attaquent des maisons et des commerces de catholiques sur une rue où habite un enfant, Buddy et sa famille qui sont au centre du film, et eux sont protestants. En fait, cette violence des orangistes laisse penser, donc, avec cette scène d'ouverture, un film ouvertement politique, mais en fait, c'est un leurre, parce que très vite, le film est vu à travers les yeux du jeune garçon, Buddy, qui a 9 ans, dont la candeur, assez juste à mon sens, efface la violence, ou en tout cas la marginalise, même si elle est toujours là à l'arrière-plan, de manière sourde en quelque sorte. Je fais un petit lien rapide avec un livre que j'ai lu l'an dernier, que j'ai beaucoup aimé, d'une romancière française d'origine japonaise qui s'appelle Ryoko Seguguchi, et qui a été invitée pour une résidence d'écriture au Liban, à Beyrouth, et qui a écrit un livre qui s'appelle 961 heures à Beyrouth. Et on ne peut pas effacer la guerre du Liban, elle est là dans le livre, il y a toujours des références à la guerre, mais elle passe complètement à l'arrière-plan, derrière la cuisine et la nourriture. C'est la cuisine et la nourriture qui servent de relais, en fait, aux relations entre les gens et qui est à l'avant-plan. Je fais ce lien-là parce que je trouve que dans Belfast, à la fausse solidarité du mouvement extrémiste de l'Ulster Volunteer Force, qui est ouvertement anticatholique dès le départ, c'est d'ailleurs à peu près le discours politique se limite à ça, vient surgir une solidarité qui, elle, est réelle, qui est celle de la communauté malgré les troubles. Et pour moi, la nostalgie dans le film serait là, d'abord, c'est-à-dire que l'extase de la vie, si je reprends la formule de Baudelaire, ne fait pas disparaître l'horreur de la vie, mais refuse de lui laisser toute la place. Hein, c'est justement quand je parlais tantôt de cartes postales figées, ben, je dirais que l'image que la plupart des gens qui suivent le moindrement la politique ont de Belfast dans les années 68-98, c'est justement une image figée de violence et de peur. Or, le regard de l'enfant refuse de ramener le passé à ce seul refrain-là, et l'histoire familiale vient suppléer, en fait, à l'histoire événementielle. Et pour moi, l'image la plus claire de ça dans le film, Catherine faisait un peu allusion tantôt, c'est que la scène la plus violente pour le garçon, là, il apparaît le plus touché, c'est quand on lui annonce que la famille va déménager à Londres. Où là, vraiment, il fait une crise. Pour lui, c'est la violence suprême, ce n'est pas la violence à Belfast, c'est l'idée d'être obligé de partir de Belfast. Donc, la nostalgie, on pourrait dire, serait de dire que Belfast mérite qu'on s'en souvienne malgré tout. Et ben, j'ajoute que c'est un film, et la nostalgie, pour moi, elle se jouait aussi à un niveau cinématographique dans ce film-là, parce qu'un des principaux rôles est joué par Judi Dench. Judi Dench, c'est une des grandes actrices britanniques de théâtre d'abord. Elle a 87 ans aujourd'hui, donc c'est un peu une icône du monde du théâtre en Angleterre, mais aussi du cinéma et de la télévision, et qui a joué dans plusieurs films de Branagh. Elle a 87 ans, elle a commencé en jouant Hamlet en 1957, donc c'est vraiment une image du présent, mais aussi beaucoup une image, une figure du passé. Et dans le film, tous les rôles principaux des acteurs, des actrices, j'ai vérifié, sont joués par des acteurs, des actrices irlandais et généralement nord-irlandais. Et c'est le seul rôle important qui est joué par une Anglaise. Et je me disais, c'est aussi une façon de faire signe au passé et peut-être montrer que l'art peut être un pont au-delà des différences. Alors, le rapport au cinéma, je me permets de faire le lien aussi donc avec un film de 1971, que je n'avais jamais vu, et c'est le The Last Picture Show de Peter Bogdanovich que j'ai vu la semaine dernière. Et là, je vais faire un peu de nostalgie moi-même parce que je me souviens que dans ma toute jeune adolescence, j'avais 12 ans, 71, tout le monde parlait de ce film-là. Et quand je suis allé le voir, je me suis demandé mais comment j'ai fait pour passer autant de temps sans le voir, parce que c'est un film que j'ai trouvé vraiment assez merveilleux. Alors, si Belfast pourrait dire que c'est un film qui est saturé par les événements politiques qui sont à l'arrière-plan et que le film essaie de contenir tout le temps. The Last Picture Show, c'est plutôt au contraire un film qui se présente avec un vide qu'il faut combler. Hein, on est dans une petite ville perdue du Texas au tout début des années 50. Le film tourne pour l'essentiel autour de deux adolescents, Sonny et Dwayne, et d'une adolescente, Jessie, qui ne sont pas très bien dans leur corps, qui ne sont pas très bien dans leur vie. Et dans cette ville-là où il ne se passe rien, il y a Sam, qui est un homme d'affaires, qui est le seul à mettre un peu de vie, en étant à la fois propriétaire du café, de la salle de billard et du cinéma local, autour duquel on a l'impression que tout le film un peu implicitement tourne. Quand il meurt d'une crise cardiaque, tout va se mettre à aller à volo. Et à la fin, Sonny et Dwayne, qui avaient eu une dispute très sévère, Sonny est même sérieusement blessé par Dwayne, vont se réconcilier. Et Dwayne s'engage dans l'armée et part en Corée. Donc, la guerre n'est pas absente là aussi, mais c'est une guerre d'un autre type. C'est la guerre de Corée qui est à l'arrière-plan, qu'on voit surgir par moment. Et présenté comme ça, on a l'air d'un film où il se passe pas, ça a l'air d'être un film où il ne se passe pas grand-chose. Et je dirais, en effet, C'est un film sur l'adolescence qui tient à une atmosphère, à un esprit, à un mood sur la vacuité de l'existence. C'est pas un film qui ennuie. Moi, c'est un film, en fait, j'ai trouvé assez fascinant, mais c'est un film qui présente une poétique de l'ennui. La difficulté d'exister dans une ville qui, littéralement, n'existe pas. Il ne se passe absolument rien. Et donc là, la nostalgie tiendrait, pour moi, à une volonté de retenir ce qui ne relève pas du tout de l'événementiel, de tenter d'archiver ce qui ne se retient pas, ce qui semble n'avoir aucune valeur narrative en réalité. Comme d'ailleurs dans le film s'ouvre avec une scène où le vent se lève, et le vent se lève aussi à la toute fin, comme si, avec l'impression que le vent emporte vraiment tout sur son passage, et on a l'impression d'une grande fragilité de ce qu'on voit, comme si il y avait là une vie qu'on ne parvenait pas à archiver. Autre lien entre les deux films. Les deux films sont en noir et blanc. Alors, on pourrait aussi réfléchir sur l'utilisation à partir des années 60 du rapport à la nostalgie au noir et blanc. Est-ce que ça renvoie justement à un certain âge d'or du cinéma hollywoodien, qui serait en train de mourir? Et là, je renvoie à un autre film en conclusion en noir et blanc qui est Sunset Boulevard, où Gloria Swanson joue justement son propre rôle d'ancienne vedette déchue du muet, alors qu'elle a un valet qui est Eric Von Stein, qui l'a fait jouer justement dans un de ses plus célèbres films qui est Queen Kelly. Est-ce que la nostalgie pourrait passer là, où, là aussi, on peut se poser la question, mais si c'est une nostalgie à ce moment-là négative, qui dirait le passé, le cinéma est passé, je pense que c'est une erreur parce que le cinéma n'est pas mort malgré ce que peuvent penser les esprits chagrins.
J'ai envie qu'on revienne peut-être tout de suite un peu sur le noir et blanc puis la couleur, parce que dans Belfast, ce qui est intéressant aussi, c'est que, si je me rappelle bien, au début puis à la fin, on a des images de Belfast en couleur, dans le générique, oui. Mais sans aucune communauté. Il n'y a pas d'humain dans ces images-là. C'est que des paysages industriels, comme si la Belfast en couleur d'aujourd'hui était presque morte, en fait, ou qu'elle était devenue une espèce de zone d'exclusion à la Tchernobyl. Un côté un peu... Le film lui-même, justement, est nostalgique parce qu'il n'y a que le passé qui est en noir et blanc, qui est vivant puis qui montre cette communauté-là. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est vraiment ce qu'on regrette dans le film. C'est cet esprit de communauté qu'on sent qui est en train de disparaître aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on on sent depuis la pandémie, mais aussi depuis les problèmes politiques aux États-Unis, qu'à l'intérieur même des familles, on est en train de perdre la cohésion sur des questions idéologiques, sur des questions de croyances, alors que là, c'est l'exact contraire. C'est malgré les différences idéologiques, malgré les différences de religion, on peut former une communauté.
En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme si, c'est un peu l'envers de ce que je disais au début, c'est comme si la carte postale figée, c'est aujourd'hui. En fait, c'est le passé qui est en mouvement. C'est le passé qu'on fait revivre et dont on montre la vitalité très grande.
C'est peut-être forcément le cas parce que c'est un film quand même... en partie biographique. Kenneth Branagh maintenant regarde Belfast de Londres. Hein. Ça fait des décennies aussi qu'il n'a plus habité Belfast. Et donc, forcément, pour lui, la Belfast contemporaine est peut-être plus vivante au sens vraiment littéral pour lui-même, ne fait plus partie de sa vie et puis de son expérience du réel.
J'ajoute d'ailleurs que The Last Picture Show est tiré d'un roman en partie autobiographique aussi de Larry McMurtry, qui a été co-scénariste du film. Alors là aussi, il y a peut-être la question de la biographie, du rapport à son propre passé subjectif qui entre en ligne de compte dans bien des cas. Ça serait une autre question à explorer aussi.
On voit dans Sorrentino aussi, qui est aussi biographique, qui a un même genre de rapport au passé d'ailleurs. Il y a le noir et blanc aussi qui est intéressant dans French Dispatch. Le film en général est en noir et blanc, mais parfois on passe à la couleur pour des scènes très, très précises qui, il me semble, sont liées à l'émotion.
Ce qui est intéressant dans cette discussion-là, c'est que parfois aussi c'est inversé. Il y avait Utterhol qui avait dans Midi à Nostalgie a écrit sur Bonjour Tristesse de Prelinger. Je peux dire le titre pour celles et ceux qui s'intéressent. Son chapitre s'appelait Nostalgia, Tinted Memories and Cinematic Historiography on Otto Preminger's Bonjour Tristesse de 1958. Puis là, elle montre que c'est en fait inversé pour les scènes dites nostalgiques, mélancoliques. Ben, c'est la couleur qui va être mobilisée. Donc, parfois, c'est aussi l'inverse. Là. Donc, ça, c'est intéressant aussi à observer que ce n'est pas forcément le noir et blanc qui est en soi nostalgique esthétiquement parlant. C'est en fonction vraiment du montage, etc., que parfois, ça peut être aussi inversé.
Pour ma part, j'avais au départ envie de vous parler du film Last Night in Soho d'Edgar Wright, qui a pas tellement fait parler de lui, en fait, qui a passé un peu inaperçu, parce que c'est un film qui m'obsède depuis que je l'ai vu à sa sortie l'automne dernier et qui m'a justement donné envie d'organiser cette table ronde sur la nostalgie. Pour moi, ce film est intéressant parce qu'il montre que le passé peut être tout à la fois un idéal, un cauchemar et une inspiration. Le film lui-même n'est pas nostalgique en soi, il parle de nostalgie, de ses effets. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que The Power of the Dog de Jane Campion le faisait aussi, il dialoguait étonnamment bien avec le film de Wright, étonnamment parce que c'est deux films tellement différents, autant dans les codes génériques, le ton, les personnages, que les époques et les lieux. Je les résume très sommairement pour ceux qui ne les ont pas vus parce que je vais faire référence un peu à l'histoire. Last Night in Soho suit une jeune femme de 18 ans, hein, Héloïse, obsédée par la culture des années 60, qui est admise, donc elle ne l'a pas vécu, ça se passe dans les années 2020, qui est admise dans une école de mode à Londres et emménage dans une chambre du quartier de Soho. La nuit, elle rêve qu'elle est Sandy, une jeune femme des années 60 qui tente de devenir chanteuse au Café de Paris. Mais la vie de Sandy tourne rapidement au cauchemar alors que son copain impresario se révèle être un proxénète. Elle se prostitue à contre-cœur et assassine ses clients. La violence de sa vie contamine celle d'Héloïse jusqu'à la rendre folle et les deux époques se confondent visuellement. À la fin, alors que la partie la plus horrifique se résout, Héloïse fait son défilé de fin d'année et présente une collection contemporaine inspirée des années 60. Dans son miroir, l'image de sa mère, qui s'était suicidée quand elle avait 7 ans, est remplacée par celle de Sandy. Dans The Power of the Dog, de son côté, donc, suit la vie de deux frères qui gèrent un ranch dans le Montana en 1925. Quand un des deux frères, George, se marie avec une veuve, Rose, Phil, donc l'autre frère, commence à la harceler, elle et son fils Peter, et à révéler les traits les plus toxiques de sa personnalité. Phil a fait des études classiques à Yale, mais il a choisi la vie de rancher lorsqu'il a rencontré celui qui allait devenir son mentor et son amoureux, Bronco Henry, 25 ans plus tôt. Le fils de Rose s'avère particulièrement intelligent et un adversaire un peu inattendu de Phil. Donc, dans les deux films, la nostalgie est synonyme de vivre par procuration la vie de proches décédés il y a longtemps et dont le deuil n'a pas pu être fait. Héloïse vit pour sa mère suicidée, qui était elle-même étudiante en mode à Soho quelques décennies avant elle. Elle la voit littéralement dans son miroir à la campagne, dans sa chambre d'enfant, et elle l'accompagne en photo tout au long. Mais ce n'est que dans la dernière scène qu'elle réapparaît dans le miroir, à Londres cette fois-ci. Héloïse vit la vie de sa mère justement parce qu'elle a été dévorée par sa propre époque jusqu'au suicide. Et lorsqu'elle s'installe à Londres, elle vit encore la vie d'une autre, Sandy, par procuration. Ce n'est que dans la scène finale, où l'image des deux femmes mortes fusionne dans le miroir, qu'elles deviennent des inspirations plutôt que des fantômes, plutôt que des avatars. Dans The Power of the Dog, cette vie par procuration qui force à vivre dans le passé est aussi au centre du récit. Phil vit l'existence de Bronco Henry. Du début à la fin du film, la plupart de ses répliques consistent en la narration d'anecdotes concernant Bronco Henry, et le film s'ouvre au moment où il célèbre les 25 ans de leur premier voyage avec lui. Comme Héloïse, il est coincé dans le deuil non résolu de son mentor, ami et amant, et dans son regret d'un monde qui a changé, qui n'est plus l'Ouest sauvage, mais les États-Unis d'Amérique. Il refuse la vie civilisée que son éducation à Yale supposerait, et il refuse d'avoir de nouvelles relations amoureuses. Il n'existe que pour prolonger le monde de Bronco Henry. D'ailleurs, Jane Campion explique que le rapport de Phil au passé est amoureux, je la cite. « Everything he's done is in the past. He can only love safely in the past. » Mais à la différence de Last Night in Soho, le fantôme d'une autre époque qui hante le protagoniste n'apparaît jamais à l'écran. Dans Last Night in Soho, il est là, Sandy, elle est constamment à l'écran, alors que là, on ne le verra jamais. Il n'est pas incarné par aucun acteur. C'est le nom de cet amant et son souvenir qui contamine tout le film. Aucune photo, aucun reflet, aucun flashback, à l'inverse du film de Wright. Donc, Jane Campion joue uniquement avec les dialogues, le visage de Cumberbatch, dont le regard est presque toujours tourné vers l'intérieur, comme s'il n'était pas physiquement présent à la même époque, mais aussi les objets marqués du nom de Bronco Henry qui sont touchés par Phil. La selle avec une plaque commémorative et le mouchoir avec ses initiales, BH, qui est érotisé dans le film. D'ailleurs, dans les deux films, les objets et les lieux sont imprégnés ou contaminés, hantés par le passé. Les deux films utilisent le même mot, soaked, autrement dit imbibé, pour parler du phénomène. Dans The Power of the Dog, Phil explique au jeune Peter qui vient de s'asseoir sur la selle, « Just by sitting there, you're soaking up all the riding know-how you'll ever need and then some. The saddle belonged to Bronco Henry, greatest rider I ever knew. » Et dans Last Night in Soho, c'est la propriétaire du bar de Toucan qui le dit à Héloïse lorsqu'elle lui demande si elle croit aux fantômes. Donc, elle répond « Every gangster, every copper, every red-faced lush has been in here. And all those high spirits have soaked into the walls. You could probably get drunk just on that. » Je ne pense pas que l'utilisation du mot « soak » dans les deux films soit un hasard. Il dit plusieurs choses sur la façon que le passé a d'occuper le présent physiquement. Soaked au sens très littéral, hein, implique que les objets, les lieux, sont des éponges qui absorbent les fluides. Et au plan très physique, c'est le cas. La sueur de Bronco Henry est sans doute imprégnée dans la selle qu'il a longtemps utilisée. Et à d'autres moments du film, on voit Phil avoir une réaction physique au contact du mouchoir qu'il garde d'ailleurs dans son pantalon. De la même manière, dans Last Night in Soho, l'alcool, mais aussi la salive et la sueur des anciens habitués du bar sont certainement encore imprégnés dans les murs, très littéralement. Et Héloïse n'entre d'abord en contact avec Sandy que par le lit qu'elle partage à près de 60 ans d'écart, un lit qui a absorbé le sang et le sperme des hommes qui ont abusé de Sandy et qu'elle a assassiné. Il y a donc une physicalité dans la nostalgie dans ces deux films que je trouve assez intéressante. Le passé existe littéralement dans le présent à travers les objets et les lieux. Mais évidemment, « soaked » est surtout utilisé dans son sens métaphorique, comme si l'esprit de la personne, mais aussi l'esprit de l'époque, voire le temps lui-même, étaient des fluides qui s'infiltrent dans les interstices du présent, ce qui expliquerait la difficulté ou en fait l'impossibilité d'y échapper. Mais au-delà des vies par procuration et des deuils non résolus, il n'en demeure pas moins que les deux films construisent un regard nostalgique sur deux époques, sur deux espaces-temps même très précis, avec tout ce qu'ils comportent d'images, de cultures, de valeurs et de comportements très différents. On regrette les valeurs qui seraient authentiques d'une époque révolue, mais les deux films visent justement à déconstruire cette idéalisation-là. La critique de la nostalgie ne devient jamais une apologie du contemporain dans les deux films, ce qui est assez intéressant, au contraire, mais plutôt un appel à regarder le passé avec ses monstres, pas seulement avec ses fantasmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux films parlent de deux époques que la culture populaire a idéalisées de manière plus générale. Ce n'est pas qu'une excentricité des personnages. Les années 60 apparaissent constamment, et en particulier dans le quartier Soho à Londres, apparaissent constamment dans la culture populaire comme l'âge d'or de la musique, de la mode, de la modernité et des mouvements sociaux. D'ailleurs, Edgar Wright parle lui-même de son film comme d'un « cautionary tale for time travelers ». I think that making the film is me trying to cure myself of my desire to go back to the 60s. Il raconte aussi que le meilleur résumé de ce qu'il a voulu faire avec son film se trouve dans la réaction de Diana Rigg, une icône des années 60 qui incarnait Emma Peel et aussi une Bond girl, et qui joue Sandy âgée dans le film. Quand elle a visité les décors qui recréent le café de Paris des années 60, donc sur le set du film, donc au départ, elle est enchantée et transportée dans sa jeunesse, mais elle s'est vite rappelée comment elle était traitée comme un morceau de viande quand elle y entrait dans ce café de Paris. Donc, il résume en disant que sa réaction, donc la réaction de Diana Rigg, montre « how quickly the romantic recollections of the past curdle into something darker and more disturbing ». C'est pour ça que je trouve particulièrement intéressant que le sujet n'est pas traité avec les codes du réalisme historique, mais avec ceux de l'horreur, qui jouent sur le même tableau que l'idéalisation, au fond, avec ses refoulés, ses exagérations, ses symboles, etc. Et donc, pour terminer, dans « The Power of the Dog », c'est le souvenir de l'Ouest révolu qui est destructeur. D'ailleurs, Bronco Henry est né en 1854, hein, selon un écriteau qu'on peut voir. Or, à partir de 1852, le Montana était la frontière de l'Ouest américain, jusqu'à ce qu'il devienne un territoire organisé des États-Unis en 1864. Donc, c'est vraiment la période où on est encore dans la frontière. Bronco Henry incarne littéralement l'espace-temps du Far West, époque mythifiée par excellence, et ce, depuis le début des États-Unis, d'ailleurs. Ce que Phil regrette de cette époque-là, qu'il n'a pas vraiment connu, en fait, sinon à travers son amant, c'est un supposé rapport direct à la nature, une absence de civilisation perçue comme dégénérée et associée au féminin. Il dit constamment qu'à l'époque, il y avait de vrais hommes et qu'ils vivaient une vie authentique. La relation de Phil à ce Far West idéalisé dialogue d'ailleurs parfaitement avec le « Once Upon a Time in the West » hein, de Sergio Leone, qui racontait justement la fin de la frontière et sa masculinité toxique qui s'autodétruit, et le début de la construction des États-Unis par les veuves et par les enfants. C'est difficile de ne pas voir dans Phil des échos du personnage d'Henry Fonda hein, et dans Rose une évocation de celui de Claudia Cardinale. En bref, ce que je retiens de la nostalgie dans ces deux films, c'est qu'elle peut devenir constructive, une source d'inspiration créatrice, mais seulement si on parvient à en exorciser les fantômes, comme dans Last Night in Soho. Mais si on échoue à le faire, comme dans The Power of the Dog, la nostalgie devient forcément destructive et même mortifère.
Je voulais réagir, parce que c'est vrai que ce que tu disais, notamment en conclusion, c'est vrai que finalement,
je n'y avais pas pensé, mais s'il y a un genre cinématographique qui est basé structurellement, fondamentalement sur la nostalgie, c'est bien le western, qui depuis Léon, mais aussi depuis John Ford, depuis sa grande époque, dès le début en fait, est créé à l'époque où la frontière disparaît. En fait. Donc, dès le début, c'est un genre historique évidemment qui parle avec nostalgie d'un passé révolu, toujours révolu. C'est le genre qui, a priori, est le genre du progrès. Amérique est en train de se construire, le futur riant, souriant de l'Amérique, mais aussi et plus profondément qui parle de ce passé qui finalement n'était pas si mal, puisqu'on était libre, puisqu'il y avait cette liberté qu'on n'a pas aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, je ne l'ai pas encore vu, The Power of the Dog, mais tu me donnes encore plus envie de le voir. Ce qui est intéressant, c'est de revisiter le genre en ayant toujours cette nostalgie, mais en étant capable de jeter ce regard beaucoup plus critique, notamment évidemment sur la masculinité toxique, parce qu'à posteriori, c'est évidemment aussi un pilier du genre. Donc, c'est une sorte de western révisionniste comme ça, d'un nouveau genre qui est hyper intéressant à étudier.
Et puis, évidemment, c'est avec le regard d'une femme, en plus, basé sur un roman par un auteur gay, ouvertement gay. Donc, il y a tout ce jeu-là sur les genres qui était déjà dans les westerns, évidemment. Puis, les films westerns étaient... Oui, je pense que tu as absolument raison. C'est nostalgique par essence. Parce que même dès le début du cinéma, on est déjà... Déjà, on cite l'Ouest dans les spectacles de Buffalo Bill, pas dans le vrai Ouest. C'est-à-dire que l'Ouest lui-même, la frontière, tout ça, c'est un espace mythifié, même dès sa création, dès son existence dans les années 1850. Donc, il y a quelque chose de particulier qui me rappelle aussi à ce que Katharina disait sur le fait de pouvoir être nostalgique dans le lieu même qu'on regrette, parce que c'est ce qu'on voit bien dans The Power of the Dog.
Oui, c'est ça. Moi, je ne veux pas spoiler là, le français de ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est justement donc, quand on découvre finalement c'est quoi The Power of the Dog à la fin, donc je ne vais pas le dire, mais c'est aussi cette projection en fait, de la lecture du paysage qui, en fin de compte, crée aussi tout ce tourbillon nostalgique identitaire. Et puis, c'est important aussi ce qu'Émilie dit Hélène, ce que vous avez dit par rapport à la question du genre, parce qu'il y a quand même dans ce film-là, justement aussi, une critique du western, que ce soit par rapport à la question de la construction des genres. Donc, on voit très bien, en fait, ces ambiguïtés-là dans le personnage qui est très, très, très violent au début, parce que finalement, comme tu l'as très bien explicité, c'était par rapport à son propre passé et la relation qu'il a vécue avec un autre homme. Mais aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi à y voir quand même une critique aussi par rapport à d'autres westerns qui ont été tournés, qui ont complètement exclu ou voire même trop exotisé, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, la question des autochtones. Donc, je pense que là, il y a quelque chose quand même de très, 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 très important dans The Power of the Dog, que aussi même nous, en tant que spectatrices et spectateurs, on peut découvrir par rapport à cette construction-là, où on cherche en fait pendant très, très longtemps, il est où en fait le pouvoir du chien là, dans le film, parce que voilà, donc c'est vraiment à la toute fin qu'on comprend, donc je ne vais pas le révéler pour que chacun puisse vivre ce moment-là.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant pour les Autochtones qui sont là très, très peu longtemps, mais qui est une scène qui est un tournant dans le film et qui est très importante et qui n'est pas du tout dans le cliché habituel. On est vraiment très, très loin.
En fait, Katharina a un peu dit ce que je voulais dire. La nostalgie des westerns est aussi liée justement au fait que c'est extraordinaire. Nous étions les bons et les autres les méchants. C'est-à-dire la question autochtone, et non seulement ils sont exotiques, mais en plus, ils représentent les méchants. Et c'est pour ça qu'un film comme High Noon me semble si important et a été tellement détesté par des gens comme John Wayne. On a dans les années 50 un western où un shérif dit « j'ai peur » et où finalement s'est réussi à s'en sortir, c'est grâce à une femme. C'est quand même une représentation assez particulière à l'époque de ce que pouvait être le western. Alors je pense que la nostalgie, elle est aussi dans ce rapport entre nous sommes sûrs de nous-mêmes, et notamment par rapport aux Autochtones pendant très, très longtemps. Et aussi le fait qu'on a extrêmement négligé pendant très, très longtemps dans les westerns. En fait, c'est depuis tout récemment qu'il y en a. On a complètement oublié le fait qu'il y avait beaucoup de cow-boys qui étaient noirs. Alors que pendant des décennies, on ne voyait pas de noirs cow-boys dans les westerns. Et pourtant, dans la réalité, il y en avait énormément. Donc tout ça fait partie justement d'une manière de cloisonner le passé.
Je pense qu'on pourrait faire un saut temporel, je pense, assez important avec Mehdi. Mais en même temps, aborder une autre des grandes nostalgies américaines. Hein? Je pense qu'il y a la grande nostalgie de l'Ouest, mais la grande nostalgie des années 80. a des belles arts depuis déjà plusieurs années.
Je te remercie et merci à tous pour tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, parce que c'était non seulement passionnant, mais en plus, c'est complètement pertinent par rapport à ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Notamment, effectivement, on disait plus tôt ce contexte de crise qui pousse souvent les gens, évidemment, à se réfugier dans la nostalgie d'un passé fantasmé, évidemment. Et moi, ce qui me frappe avec le fait que les années 80, aujourd'hui, dans de nombreux films et de nombreuses séries télé, soient l'objet de cette nostalgie, c'est un peu que les années 80 sont les nouvelles années 50. Il fut un temps où c'est les années 50 qui étaient le temps d'antan, avant le drame qui souvent était les années 60, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la révolution culturelle et sociale et sexuelle des années 60. Et c'est intéressant qu'on parlait tout à l'heure de Last Picture Show de 1971, puisqu'on avait aussi American Graffiti de George Lucas, 1971 également, et c'est vraiment le film peut-être paradigmatique sur cette nostalgie fantasmée des années 50. Et finalement, c'est comme ça, moi aussi, que j'analyse cette nostalgie pour les années 80, puisque c'est cette envie de retourner dans cette époque soi-disant merveilleuse, avant le drame, avant la crise. Alors, quel drame, quelle crise exactement? C'est peut-être moins clair aujourd'hui que ça l'était pour le cas des années 50, mais je vais y revenir. Mais il est aussi important, évidemment, et on l'a dit aussi également tout à l'heure, de se rappeler que cette nostalgie, elle est aussi fabriquée, elle est aussi commodifiée, elle est programmée, comme on disait tout à l'heure, puisque c'est un calcul économique de la part des studios, évidemment, qui cherchent la prise de risque minimale pour un investissement maximal et un retour sur investissement maximal lui aussi, et donc de jouer sur des franchises déjà bien identifiées, bien connues et reconnues, et de pouvoir les remettre au bout du jour. Donc, c'est une stratégie commerciale, une stratégie narrative que le legacy quell, c'est un terme qui a été inventé par un journaliste américain en 2015, et qui consiste finalement, le terme de legacy, c'est le leg, c'est l'héritage. Et d'ailleurs, le film dont je vais parler, SOS Fantôme, s'appelle L'Héritage dans la version française. C'est pas une coïncidence. Donc, il s'agit de passer le relais, littéralement, devant l'écran, à l'écran entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, et de rendre hommage à l'ancienne génération, de rendre hommage aux anciens films, et de rendre hommage à l'ancienne époque bénie des années 80. Et rendre hommage, on le disait également tout à l'heure, à l'époque des parents, puisque ça, c'est évidemment un facteur clé. Les parents, et j'en connais, qui vont avec des enfants, des parents de mon âge, qui vont avec leurs enfants voir Star Wars, qui vont voir Ghostbusters, qui vont voir ce type de films, et qui sont tellement heureux. Batman également, ils portent le t-shirt, et ils vont faire découvrir à leurs enfants tout le merveilleux de ces films qu'ils ont vu grandir à l'époque. Donc c'est vraiment un aspect clé de cette nostalgie. Alors voilà, donc le legacy quell, donc ce terme qui date de 2015, finalement, si on devait en faire très rapidement l'archéologie, pas du terme, mais du phénomène lui-même, je pense qu'il faut revenir à 2009, et il faut citer un nom clé, c'est J.J. Abrams, qui est en grande partie responsable, pour le pire ou pour le meilleur, je ne sais pas, du legacy quell, quand il produit, qu'il réalise le Star Trek 2009, qui est un reboot, qui n'est pas un legacy quell, qui est un reboot. Donc, c'est-à-dire qu'on annule plus ou moins le canon et la chronologie ancienne. On ne les annule pas tout à fait, puisque c'est un timeline parallèle, donc une chronologie distincte, deux réalités parallèles qui coexistent. Mais on commence à découvrir le legacy quell, notamment dans cette scène où l'ancien Spock parle au nouveau Spock, donc le même être, une chose rendue possible par cette coexistence des timelines, et on a presque littéralement ce passage de relais entre l'ancienne, entre au début Spock se méprend et pense que l'homme qu'il a face à lui est son père. Alors, ce n'est pas son père, c'est simplement lui, venant d'un autre univers et un peu plus âgé. Donc là, on a littéralement ce passage de relais entre deux générations. Et on a cet hommage, parce qu'évidemment l'hommage est central au legacy quell. Et en 2011, toujours J.J. Abrams, c'est l'auteur réalisateur de Super 8, un film que je qualifie de copycat, puisque Super 8 n'est pas un legacy quell tout à fait, mais Super 8 est un hommage au film des années 80, au film de Steven Spielberg notamment, au film comme E.T., dans son esthétique. On parlait tout à l'heure de l'esthétique de la nostalgie, et c'est vraiment en 2011, avec Super 8, que cette esthétique se met en place, qu'elle s'affirme, et qu'elle va être ensuite reprise par de nombreux films et de nombreuses séries. En 2015, on a Star Wars, Le Réveil de la Force, qui sort, et là, on est vraiment cette fois-ci dans le domaine du legacy quell, puisqu'on a Han Solo, par exemple, qui revient pour passer le relais. Et on a, en fait, outre les personnages qui reviennent, on a le film, finalement, se compose d'une sorte de remake. Plus qu'une suite, en fait, c'est un remake déguisé, puisque la structure narrative est quasi exactement la même que dans le précédent film. On multiplie les clins d'œil, on multiplie ce qu'on appelle le fan service, donc tous ces hommages aux fans, tous ces clins d'œil aux fans. Et c'est en ça, finalement, que se constitue le véritable legacy quell. Et puis en 2016, on a évidemment Stranger Things, dont on va en parler plus tard, qui sort et qui se base entièrement sur cette nostalgie, sur cet hommage, sur ces clins d'œil et sur cette esthétique du film des années 80 en général et du film spielbergien, on pourrait dire, en particulier. Évidemment, E.T., les Goonies également, ce sont des films qui ici sont absolument essentiels dans ce type de phénomène. Et donc sort SOS Fantôme après plusieurs reports à cause de la pandémie, évidemment. SOS Fantôme, il m'a frappé, moi en particulier, à cause du titre, évidemment, L'Héritage, parce que c'est un legacy sequel dans la mesure où on voit les anciens personnages repris par les mêmes acteurs, 3 sur 4, puisque le quatrième est décédé entre-temps, mais je vais y revenir, qui reviennent. Je ne veux pas trop spoiler le film, mais qui vont revenir et qui vont littéralement passer le relais, qui vont aider la jeune génération et qui vont lui taper sur l'épaule en disant « c'est très bien, tu peux maintenant prendre le relais et t'occuper toi-même de chasser les fantômes ». Et toute l'intrigue du film se base sur ce rapport au passé et ce rapport à l'ancienne génération et sur le legs qu'on leur a laissé dans cette maison dans laquelle ils emménagent et qui était la maison du père ou du grand-père. Ils vont redécouvrir, renouer avec cette figure du grand-père qui est incomprise, mais qui va être à nouveau compris et accepté. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi beaucoup avec ce film, c'était l'esthétique spielbergienne qu'il y a dans ce film. En fait. On dirait vraiment Super 8 10 ans plus tard, puisque ce film, finalement, c'est à nouveau les années 80 qu'on nous resserre une fois de plus, et on a un des acteurs de Stranger Things qui joue un des rôles principaux dans le film, ce qui n'est évidemment pas une coïncidence. Et un dernier point qui est intéressant ici, c'est à quel point finalement le film réussit là où la précédente version de 2016 avait échoué dans les grandes largeurs, puisque la version de 2016 n'était pas un legacy, c'était un reboot. La version de 2016, avec des femmes qui reprenaient les personnages anciens, était un reboot dans la mesure où elle annulait les deux précédents films, elle les oubliait et elle les remplaçait, au malheur. Et cela a provoqué une levée de bouclier de nombreux fans qui n'ont pas supporté d'imaginer que leur film chéri allait disparaître, à jamais allait être oublié et qu'on allait même, et c'est peut-être là que c'est des pires, on allait se moquer de Ghostbusters. Parce que c'est vrai que le film de 2016 peut se lire comme une sorte de parodie ou de satire du film de mec des années 80. Et donc on inverse le genre et le sexe des personnages et on va faire des clins d'œil, on va se moquer un petit peu gentiment. Mais on est beaucoup plus proche, d'après une certaine lecture en tout cas, on est plus proche de la parodie que de l'hommage. Et c'est bien là qu'est le problème finalement dans le film de 2016. Il y a par exemple Bill Murray qui apparaît dans le film mais qui joue un autre rôle, qui est un antagoniste, et finalement dont on va se moquer et qu'on va littéralement éjecter par la fenêtre. Va-t'en, tu ne nous intéresses pas. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qui est fait dans le film de 2021, parce qu'en 2021, au contraire, à la limite, les personnages, quand ils voient débarquer les anciens SOS fantômes, ils sont presque à genoux, on a tous les yeux écarquillés, waouh, c'est formidable, génial, merci d'être venu. Donc c'est vraiment l'opposé, l'antithèse de ce qui s'est passé en 2016, et quand on regarde le box-office, eh bien, ça n'a rien à voir. Le film de 2021 marche beaucoup plus, il a eu un bien meilleur écho, et sans doute une suite est déjà prévue en chantier, ce qui n'est pas le cas de 2016. Le film de 2016 n'a mené à rien, si ce n'est de nombreuses polémiques et de nombreuses critiques du film et de son projet éditorial, pourrait-on dire. Donc on voit bien ici la différence entre un reboot et un legacy sequel, et on voit bien aussi la différence en stratégie commerciale et narrative, et on voit bien les différences dans la réception, finalement, que peuvent provoquer ces films en 2016 et en 2021, et à quel point, finalement, c'est bien la nostalgie qui fonctionne. Parce que quoi qu'on en pense, cette nostalgie fonctionne au cinéma, fonctionne au box-office, comme le film de 2021 a pu le prouver, et à quel point l'hommage, tel qu'il est annoncé également dans le paratexte, c'est-à-dire à quel point les comédiens, à quel point le metteur en scène ont mis sur le devant de la scène cette volonté de rendre hommage à... N'oublions pas que le film de 2021 a été réalisé par le fils, Jason Reitman, qui rend hommage à son père, qui est décédé il y a quelques jours. Donc avant même que son père décède, le fils se posait déjà dans la posture de l'hommage au cinéma de mon père. Finalement, qu'est-ce que c'est que le legacy sequel, si ce n'est la jeune génération qui rend hommage à l'ancienne et les pères de famille qui veulent nouer contact avec leur enfant à travers les films de leur enfance. Donc on est vraiment ici dans le paradigme même, dans le meilleur ou le pire, hein, ça dépend du point de vue, de ce que peut être le legacy sequel dans son aspect économique, éditorial et affectif, quelque part. Et ce sont donc des éléments qu'on retrouve absolument partout dans ce film et qui montrent, à mon avis, que le legacy sequel a encore de beaux jours devant lui, puisque ce legacy marketing, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, ne cesse pas de fonctionner.
Très bien, merci beaucoup pour cette lecture vraiment intéressante de Ghostbusters, le Afterlife, parce que j'ai vu ce film cet automne. avec beaucoup d'intérêt, évidemment. J'ai grandi dans les années 80. J'ai vu ce film à d'innombrables reprises. Je parle évidemment du premier. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec Afterlife, c'est qu'il y a effectivement cette nostalgie pour les années 80. Sauf que pour une rare occasion, cette nostalgie repose pas tant justement sur le rapport entre l'analogique et le numérique, ou comme Katharina le tantôt, il ne s'agit pas tant d'une technostalgie qu'une nostalgie. Moi, une des choses qui m'a frappé, bon, j'en ai parlé tantôt, tout de suite, la référence à la mythologie du premier film, encore une fois, sans vouloir le divulgâcher, mais bon, on a des éléments, là, Ivo Shandor, ça commence avec Shandor Mining, bon, tout ça. Mais aussi, la musique. Tout le long de ce film-là, il y a des espèces de ritournelles dans la trame sonore qui renvoient à la musique du premier film. Et j'avais trouvé ça super intéressant. C'est ça, je trouve que comme objet, Ghostbusters Afterlife est un objet vraiment intéressant parce qu'on a une nostalgie pour les années 80, mais qui ne passe pas justement par cette nostalgie pour le dispositif.
Non, c'est vrai, mais c'est vrai que la mise en scène... essayer le plus possible de rappeler les années 80, pas forcément Ghostbusters. Ce que j'essayais de dire, c'est que finalement, au-delà de Ghostbusters, on essaie vraiment de se réapproprier les années 80 à la façon dont Stranger Things le fait. Moi, je vois ce film comme presque Stranger Things le film, en fait. C'est Ghostbusters qui rencontre Stranger Things quelque part. Pour moi, c'est ça leur calcul économique. Il y a aussi le fait que l'intrigue est quasiment la même que dans le premier film de 84. C'est Zool à nouveau qui revient, c'est à nouveau les chiens qui vont posséder deux des personnages. C'est exactement, c'est la même story beats, quoi, qui sont utilisés à nouveau. Et ça, c'était vraiment l'inverse de 2016. Et c'est finalement, c'est un peu déprimant de se dire, c'est ça qui fonctionne. C'est peut-être ça qu'attend le public, c'est de revoir la même chose, pas entièrement, mais presque la même chose. Donc le film prétend au début changer la donne, puisque maintenant c'est la campagne, c'est plus à New York, donc le cadre change, donc on se dit, waouh, incroyable. Mais au final, plus le film avance, et plus on revient en paysage, en terrain conquis et le plus familier possible.
C'est très vrai, ça. Puis le reboot de 2016, j'aurais aimé ça l'aimer plus. Parce qu'il y a justement cette espèce d'inversion. Donc, ce sont des femmes. On ridiculise même un peu le secrétaire, qui est vraiment nono, là, finalement. Mais ça renvoie un peu à le portrait qu'on fait dans les deux premiers films de la secrétaire. En tout cas, bref, il y avait ce retournement que je trouvais vraiment intéressant dans ce film-là. Sauf que j'aurais vraiment aimé ça l'aimer plus. Mais ouais, je pense que il y a quelque chose de plus accompli. Et pourtant, de tellement, on est dans la récupération scénaristique totale. Ça, c'est très vrai. Mais on dirait que ça s'appelait.
C'est ça. Le film de 2016, quand elle débarque dans une caserne de pompiers, elle le visite. On pense qu'elles vont s'installer là également. Et puis, on leur annonce le loyer. Puis, en fait, elles n'ont pas l'argent. Et donc, elles vont s'installer au-dessus d'un restaurant chinois. Pour dire, en fait, c'est totalement irréaliste. Jamais personne ne pourrait se payer le loyer dans une telle station. Donc, c'est aussi une façon de se moquer gentiment du premier film.
C'est plein de boutades, en effet.
Est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'attention qui se trouve aussi dans la traduction du titre? C'est-à-dire qu'en français, on est dans l'héritage, on est peut-être plus purement dans ce qu'on aurait voulu, mais en anglais, on est dans Afterlife, puis là, on est vraiment dans une idée que c'est un peu un mort-vivant, quoi. C'est rien de nouveau. On est plus dans la logique du fantôme. C'est sûr, évidemment, c'est un jeu de mots avec les Ghostbusters, mais reste qu'il y a quelque chose de plus problématique pour moi dans le titre Afterlife et de plus révélateur du film. En fait.
C'est-à-dire que dans le film, en plus, ils sont littéralement hantés par le fantôme du grand-père,
ouais,
qui revient les aider. Donc, le fantôme du passé est là, revient, et ils peuvent renouer avec lui, littéralement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une fois, le titre en France est resté le même que dans les années 80, donc c'est SOS Fantôme. Alors que de nos jours, ils auraient gardé le titre anglais en général. C'est plus vraiment la mode de traduire les titres, de trouver un équivalent français. Or, ils ont gardé le titre français SOS Fantôme parce que tout le monde, depuis les années 80, connaît cette franchise en France sous le nom de SOS Fantôme. Mais c'est un titre vendeur et rêveur qui fait rêver, évidemment. Donc là aussi, il y a l'aspect nostalgique dans ce titre de SOS Fantôme. C'est moi-même, hein, j'ai grandi avec ce film, j'adore le premier film, mais le mot SOS Fantôme résonne à mon esprit.
Oui, bah c'est tout autre chose, ça va être assez bref, mais ça me fait penser quand tu parlais des relations intergénérationnelles, qu'on pourrait l'élargir au-delà du cinéma, bien sûr, et je pense à ce cas, je trouve assez spectaculaire, des grands-parents qui amènent leurs petits-enfants voir les Rolling Stones en spectacle. Et qui est intéressant parce que je pense que les Rolling Stones ne jouent plus en spectacle. Là, ça fait longtemps qu'ils font. Ou quoi qu'il y en avait une cette année. Enfin, bref, ils font quand même des tournées assez régulièrement et ils n'ont jamais chanté une chanson après Start Me Up, qui date de 1981. Donc, c'est vraiment le passé que les grands-parents amènent les petits-enfants voir. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi par rapport au paradoxe de la nostalgie, c'est-à-dire, Est-ce qu'on est dans la filiation ou on est au contraire dans une vraiment venez, je vais vous montrer comment mon passé à moi, il était chouette, il était subversif et tout, alors que bon, ça fait quand même un certain temps que les Stones sont vraiment plus subversifs. Ils ont même décidé lors de leur dernière tournée de ne pas jouer Brown Sugar parce que ça ne se faisait plus aujourd'hui de chanter une chanson comme ça. Alors bon, mais voilà, c'est un peu le paradoxe pour moi de la nostalgie. Penser le passé ou montrer comment c'était mieux avant ce que j'ai vécu moi, ou enfin bref, il y aurait des choses à dire aussi.
C'est d'autant plus intéressant qu'on a finalement quelque part dans les années 80 des films qui essaient de se poser en film libérateur après les années 70, à quel point les années 70 ont pu être compliquées. Aujourd'hui, les années 80, c'est des films qui se présentent, qui se représentent comme « Arrêtons de nous prendre la tête » et on fait « Back to the Future ». Et Ghostbusters, quasiment la même année, voilà, c'est typique. Et finalement, c'est cette posture qu'on essaie de retrouver, en fait, quelque part. C'est ce qu'on apprécie aussi dans ces films des années 80, c'est cette forme d'insouciance programmatique, quoi, quelque part, qui existait déjà à l'époque.
Oui, ça, cette légèreté, on la trouve aussi dans pas toute la musique des années 80, mais quand même, voilà, en comparaison, là, c'est, je pense qu'il y a le lien là aussi qui est présent. Peut-être juste pour revenir sur cette question de l'ambiguïté du lien de filiation, je pense qu'il y a peut-être différentes choses, parce que ça rappelle un peu ce personnage dans Belfast, mais aussi dans The Power of the Dog, c'est-à-dire comme une différenciation entre l'expérience vécue et puis surtout dans le cadre de Belfast, ce jeune garçon qui finalement, il vit son enfance puis il ne comprend pas encore tout le contexte politique, qui est aussi tenté de différentes formes de nostalgie politique, hein, identitaire, mais qui ne saisit pas pour lui. La nostalgie, il est vraiment cette peur d'être arraché en fait à là où il est heureux. Et puis ça, je pense que ça se reflète aussi dans cette nostalgie un peu transgénérationnelle. C'est-à-dire, c'est clair que si nos parents, nos grands-parents idéalisent peut-être d'une part, mais parce que ça renvoie à leur vécu, parce qu'on ne veut pas se souvenir forcément des mauvaises choses. Et puis là, il y a une certaine forme, entre guillemets, de danger d'idéalisation. Mais en même temps, je pense que là, aujourd'hui, avec justement les changements et la conscientisation, en quelque sorte aussi, que ce passé, pas juste le passé, mais aussi le passé cinématographique, parfois être idéalisé. On le sait aussi pour les séries télévisées. Donc là, peut vraiment fonctionner la nostalgie réflective dont parlait Svetlana Boym, à savoir, je pense que Ghostbusters était aussi beaucoup plus blanc, entre guillemets, auparavant. Ça change là avec la nouvelle version, et heureusement. Puis il y a aussi la réclamation. OK, Friends, c'est remontré, mais aujourd'hui, une série ne sera plus tournée comme telle avec uniquement des personnages principaux de couleur de peau blanche, et etc. Et puis là, du coup, il y a aussi la façon de dire, oui, d'une part, je me noue au passé de mes parents, mes grands-parents ou d'autres personnes, du membre de la famille. Je peux m'identifier aux bonnes choses de ce passé-là, mais on peut aussi avoir un discours sur « oui, mais là, tu es nostalgique de quelque chose, aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça ». Donc, de voir cette différenciation aussi là, parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'industrie cinématographique spécifiquement américaine qui est aussi très nostalgique de son passé qu'elle ne peut être. Et puis là, je pense qu'il y a de passablement de critiques à avoir, mais peut-être pas là, mais ce sera un autre objet d'un autre podcast, peut-être.
Tu parlais des acteurs qui reviennent, Bill Murray, tout ça, ça me faisait penser à quel point il y a toute une... Ça revient au Rolling Stone aussi. Il y a tout un ensemble de gens qui ont eu une gloire dans les décennies précédentes, donc, qui en font maintenant une carrière. C'est Harrison Ford, par exemple, qui est dans à peu près tous les legacy quels possibles, qui a encore une visibilité à cette génération-là, qui ne disparaît pas, qui réussit à rester à l'écran dans une culture qui est pourtant très âgiste.
Elle s'accroche. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a ce Indiana Jones qui est sorti en 2008, des années après, c'est 20 ans après le troisième, et qui n'était pas forcément le plus réussi de la série. C'était le rapport du père au fils, et ce fils, donc le film s'est passé dans les années 50, le précédent c'était années 30, et là c'était les années 50, et donc on avait à nouveau les bikers, on avait un peu tous les clichés des années 50 et de cette époque-là. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste qui a inventé le terme de Legacy Quell dans son article 2015, et cette fameuse scène à la fin, où le fils veut se saisir du chapeau du père et le mettre sur sa tête, rituel symbolique s'il en fut jamais, et Harrison Ford, Indy, récupère le chapeau et le garde. Non, mon fils, c'est moi qui reste Indiana Jones. Et d'ailleurs, depuis, un cinquième film est en chantier, et Harrison Ford s'accroche et il a dit lui-même, je suis Indiana Jones et personne d'autre. Donc là, il y a eu comme un petit couac à ce moment-là du refus de Legacy Quell, c'est-à-dire refus de passer le relais, où Harrison Ford, effectivement, essaie de de capitaliser sur ses gloires passées. Mais en tout cas, voilà, on était clairement, c'était 2008, je crois, hein, donc juste avant Star Trek 2009, on était clairement dans ce tournant.
Alors que dans Star Wars et Blade Runner, il passe la main, quoi.
Ben là, il a peut-être eu moins le choix, mais, oui. mais je suis absolument d'accord, en tout cas, sur cette idée de cette génération si importante, en fait, qui des Rolling Stones à Harrison Ford, comme ça, qui a été si centrale à l'histoire culturelle récente et qui a du mal, quelque part, à s'éclipser.
Oui, juste pour dire, ça revient aussi passablement avec l'ensemble des biopics que l'on retrouve depuis quelques années. Hein. Donc, ce retour aussi sur l'histoire musicale, etc. Moi, juste, ça me faisait penser à ça aussi. Les biopics sont vraiment des programmations nostalgiques très intéressantes aussi à observer.
Bon, mais c'est bien, on peut peut-être passer justement à un sujet qu'on n'a pas trop abordé jusqu'à présent, hein, Louis-Paul, c'est l'analogique, donc le retour aussi aux années 80, mais qui passe plutôt par la technologie que Katharina a quand même évoqué dans sa présentation au début, hein, la technostalgie.
Katharina a beaucoup écrit là-dessus et beaucoup dirigé le truc, donc j'essaie de me garder de dire trop d'énormité. Là. Mais juste en passant, on a parlé des Stones, puis je peux pas m'empêcher, parce que bon, il y a l'âgisme et tout ça, mais il y a cette espèce d'épidémie de même qui met en scène un Keith Richards qui a toujours été vieux, puis je trouve ça un peu rigolo, bref. Comme tout le monde, un peu autour de cette table, donc je crois que la nostalgie est un enjeu majeur là, dans notre paysage médiatique contemporain, on en parle beaucoup. Moi, personnellement, un des intérêts qui me dynamise le plus, bien, c'est un peu l'insistance actuelle qu'on a pour cette nostalgie des années 80, donc on en a déjà parlé un peu. Moi, j'ai envie de revenir là-dessus parce que je pense que les années 80, en fait, c'est une décennie qui est particulière pour plusieurs raisons, mais je pense avant tout, c'est un peu gros, là, mais on peut dire que c'est la dernière décennie pleinement analogique. Évidemment, là, on pourrait argumenter que le numérique était présent avant, mais au niveau de monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'on peut dire que les années 80 représentent la dernière décennie pleinement analogique avant l'entrée vraiment fulgurante et déterminante du numérique dans nos vies au fil des années 90. Donc, la nostalgie pour les années 80, souvent, pas toujours, parce qu'on a parlé de Ghostbusters Afterlife et je trouve que ça fait exception ici, mais beaucoup de la nostalgie pour les années 80 penche vers une fascination pour un passé qui est analogique, et là, ça renvoie à cette question de technostalgie. Donc, la fascination pour l'analogique, je pense qu'on peut l'ancrer d'un point de vue de la rétrospective, parce que bon, si la nostalgie est une forme de désir, on n'en a pas beaucoup parlé sous cet angle-là, mais je pense que moi je fais attention, là, puis tout le monde ici a prononcé le mot désir quelque part. Alors, la nostalgie est une forme de désir et on pourrait situer ce désir pour les années 80 autour de cette transition médiatique de l'analogique au numérique parce que c'est une transition finalement qui génère une absence. Et c'est au sein de cette absence-là qu'on peut voir un désir se construire. Alors là, je vais faire un petit détour. La nostalgie, donc, c'est un objet d'étude riche. Je vais faire un petit détour parce qu'il y a cette question du désir. Et c'est là où mon intérêt à moi pour un corpus théorique plus orienté vers la psychanalyse m'amène à penser un peu à certains aspects de la nostalgie. Parce qu'il y a plusieurs liens à faire entre le désir nostalgique et le désir dans son fonctionnement. La nostalgie, finalement, c'est une fascination pour un passé, on en a parlé tantôt, c'est un passé qu'on idéalise et à la limite même qu'on fétichise. Et ce passé, finalement, idéalisé, bien, c'est une impossibilité ontologique. Il est reconstitué en rétrospective, il n'a pas existé tel quel. Et pour cette raison, le passé comme objet de nostalgie, bien, c'est quelque chose qui partage beaucoup de points communs avec l'objet du désir dans sa conception psychanalytique. Et il y a un ouvrage qui date des années 90 de Susan Stewart qui pose un regard quand même assez unique parce que je n'ai pas eu la chance de relire beaucoup sur la nostalgie dans cette perspective-là depuis. Donc, je trouve que sa contribution est originale. C'est un bouquin qui s'appelle « On Longing », question de la nostalgie, de ce désir languissant. Et pour elle, donc, la nostalgie, c'est une mélancolie sans objet. Ou plutôt, il y a un objet, mais c'est un objet qui est toujours reconstitué en rétrospective. Comme elle le dit, le passé que recherche le nostalgique, c'est un passé qui n'existe pas à l'extérieur du cadre narratif. Alors, c'est un passé qui est fondamentalement, absent. Et cette absence, bien, elle est au centre du mécanisme de genèse du désir, parce que le désir se constitue toujours à partir d'une absence. Et là, je pense qu'il faut faire attention, là, quand on parle de désir dans une perspective psychanalytique, c'est un concept qui est beaucoup, beaucoup plus radical que ce qu'on peut être amené à croire là, dans le langage plus commun. Le désir, ce n'est pas la recherche d'un objet nécessairement matériel, même en psychanalyse, c'est le contraire. C'est la recherche d'une qualité que nous projetons sur un objet en tant que sujet. Sauf que cette qualité-là qu'on projette sur l'objet, bien l'objet ne la possède pas. Ce qui amène à ce fameux aphorisme, pour ceux qui sont plus familiers avec la théorie psychanalytique et plus spécifiquement de Lacan. Lacan va dire de l'objet et de la cause du désir que, et je cite, « c'est ce qu'il y a dans l'objet plus que l'objet ». Donc, c'est quelque chose que l'objet ne possède pas. Alors, le désir se perpétue par son échec. Le sujet va éprouver un plaisir à désirer. Finalement, comme, et je reviens à Susan Stewart, elle a dit que la nostalgie, c'est le désir de désirer. Mais en psychanalyse, on dirait que le désir, c'est le désir de désirer. Donc, il y a des liens à faire là, incontestablement. Et dans une contribution très récente, justement, dans le numéro de cinéma auquel Katharina a participé, il y a André Habib là, qui a écrit un article que j'ai trouvé vraiment fascinant sur Kodachrome. Et il dit que l'objet de la nostalgie correspond rarement à la réalité de cet objet. Mais c'est justement par le biais de cette distorsion qui s'effectue. Alors, si on revient aux années 80... Bien, la nostalgie pour les années 80, en tant que dernière décennie analogique, je pense qu'elle amène cette question, où est-ce qu'on peut situer l'absence qui génère le désir pour les années 80? Dans les discours culturels nostalgiques qui sont centrés sur les années 80, l'accent est souvent placé sur une certaine remédiation numérique de l'analogique. Et là, on a plein d'exemples, évidemment, on peut parler de Stranger Things qui on dirait, existe pour ça, pour remédier les années 80 et leur environnement analogique. On peut penser aussi aux applis photo, vidéo qui visent à émuler la photographie argentique. Bon, on pourrait continuer longtemps. La remédiation des médias analogiques sort ces médias-là de leur contexte, mais aussi de leur mode de production et de diffusion. Puis là, comme il est question un peu de Stranger Things en filigrane, bien, il y a la musique synthwave que je trouve intéressante ici. Parce que le courant synthwave, c'est littéralement ça, c'est nostalgique, mais c'est une remédiation numérique de textures sonores analogiques qui prédominaient dans les années 80 dans la musique du cinéma d'horreur, dans le jeu vidéo. Et il y a ici une dimension rétrospective, parce que le synthwave évoque les années 80, mais c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu exister dans les années 80. Donc, on a vraiment cette dimension rétrospective. Alors, d'un point de vue psychanalytique, ce que je trouve intéressant ici, c'est que l'analogique, on le construit aujourd'hui comme l'autre de la technologie numérique. Alors, on projette sur l'analogique des qualités qui ne lui sont pas propres et surtout qui mettent en relief ses défauts. Et ça confère ou ça transmet un certain surplus, une plus-value à l'analogique. À la limite, on pourrait dire que ça confère à l'analogique une aura. Mais au final, l'analogique, c'est une qualité qu'on projette sur un médium uniquement en rétrospective depuis notre contexte numérique. Comme Habib le disait, je pense pas que c'est dans son article dans Cinéma, je pense que c'est dans un autre article, il disait que personne dans les années 50 célébrait les qualités analogiques du disque vinyle ou de la dactylo. C'est des choses qu'on fait en rétrospective. Même, je me demande à quel point on nommait les médiums comme étant analogiques à l'époque de l'analogique. On ne peut nommer l'analogique que du point de vue numérique. Alors, il y a ce surplus qu'on projette sur les médias analogiques dans le discours nostalgique et, dans le fond, c'est on confère à un média une qualité qui est plus que ce média-là. Et ce surplus, pour moi, a les mêmes propriétés que ce fameux objet cause du désir en psychanalyse. Et le surplus qu'on projette sur l'analogique, bien, ça implique un manque, et ça m'amène au dernier point de mon intervention. Ça implique un manque, une absence dans le numérique. Le numérique, c'est un peu cette technologie de la perfection. Bon, évidemment, il y a toujours la possibilité que le support fasse défaut et qu'il glitch. Je pense que c'est Katharina tantôt qui parlait. On pense beaucoup au numérique avec la dématérialisation, sauf qu'on se trompe. Il y a de la matérialité quelque part. Elle est juste à l'extérieur de notre perspective à nous. Mais le discours nostalgique sur le sujet, bien, il est arrivé rapidement dans les années 80 avec l'introduction du CD. Alors, dans un article qui est souvent cité, là, qui provient de Rolling Stone de l'époque, David Lander disait, là, je traduis sa citation, il dit qu'il y a sans doute quelque chose dans la musique que les chiffres, les 0 et les 1, puis les lasers ne pourraient pas traduire. Alors, on a cette idée déjà avec l'arrivée du disque laser, qui est finalement le premier support numérique qu'on s'approprie comme objet de consommation. Il y a déjà cette idée qu'il y a une perfection qui est autoproclamée de la part du numérique, mais qui localise une certaine absence. Et pour moi, c'est précisément ici que se situe possiblement la genèse du désir nostalgique pour les années 80 en tant que dernière décennie réellement analogique. Alors là, je m'étais fait un paquet de listes d'exemples, à commencer avec des Stranger Things, mais aussi plus récemment, il y avait cette... je viens de l'écouter, cette série sur Netflix, Archive 81, là, donc, qui aussi est centrée sur la matérialité d'un médium analogique. Ici, il est surtout question de la cassette VHS, qui d'ailleurs doit être restaurée. Elle a subi le passage du temps et aussi d'un incendie, de toutes sortes d'aléas, mais on a cette matérialité du VHS. On voit l'archiviste démonter la cassette, la nettoyer pour ensuite la numériser. Et au sein du contenu de ces cassettes VHS se cache quelque chose de traumatique. Puis je trouve que ça augure une perspective intéressante qui est très différente de celle de Stranger Things, même si on se retrouve un peu dans la même espèce de peut-être le même paradigme un peu technostalgique, là, mais avec une perspective complètement différente.
Est-ce que tu as vu Fringe? Ça t'intéresserait, je pense, la dernière saison en particulier. On est dans un futur dystopique, puis les personnages principaux sont projetés dans ce futur-là parce qu'ils sont figés dans l'ombre, et puis ils sont réveillés, et ils vont communiquer avec... en fait, eux de notre présent communiquent avec eux de leur futur, avec des cassettes VHS sur lesquelles ils ont enregistré le plan pour lutter contre les envahisseurs, en gros, contre le gouvernement totalitaire. Mais il faut reconstruire aussi les cassettes. Puis on a vraiment l'idée d'une discussion générationnelle basée sur le matériau du VHS.
Je vais faire un lien avec quelque chose de tout récent que j'ai vu. En fait, avant-hier, je suis allé voir le dernier film de Joachim Trier, qui en français s'intitule Julie en 12 chapitres, qui est un film un peu plus léger que ses films précédents, mais il y a quand même des scènes un peu dramatiques. Il y a entre autres une scène où un homme parle avec son ex, le personnage principal, qui a une quinzaine d'années de moins que lui. Et pour aller vite, là, on peut situer au moment de la scène qui a 49 ou 50 ans, donc il est né au tout début des années 70-71. Et il tient tout un discours sur l'époque analogique, justement, en disant que sa jeunesse, son enfance, son adolescence, sa jeunesse, la culture, c'était des objets qu'on pouvait tenir des objets. Puis il y a tout un discours très, très nostalgique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il tient ce discours-là, il est en train de mourir d'un cancer. Alors, tirez-en l'hypothèse que vous voulez. Mais je trouve assez intéressant que c'est le seul moment dans le film où il y a ce genre de discours nostalgique. C'est au moment où il va mourir, comme s'il y avait une... La première chose qui ressort de la nostalgie de son passé, c'est justement le rapport à l'analogie, au plan culturel.
C'est intéressant.
Oui, justement, ça me permet de rebondir là-dessus, parce que ce que Louis-Paul disait, c'est vraiment intéressant et important. J'y reviens tout de suite, mais surtout ce que tu venais juste de dire, Jean-François, il ne faut pas oublier la nostalgie. À la base, c'est vraiment une pathologie qui renvoie aussi à la question de l'irréversibilité du temps. Donc, ça revient à la remédiation, justement. Pour ça, j'invite à lire Yankelevitch, L'irréversible et la nostalgie, où justement, on sait que on va disparaître un jour, puis d'où aussi l'intérêt de parler de passablement de solastagie et de l'éco-anxiété aussi, qui renvoie à notre propre disparition. Mais dans beaucoup de films, d'ailleurs, aussi qu'on a cités, souvent, c'est quand il y a question de mort ou de fin de vie ou de deuil, et on le voit surtout dans The Power of the Dog, c'est là aussi où la nostalgie paraît. Et puis là, elle peut être curatrice aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est douce amère hein, souvent. Et quelque chose qui est très important par rapport à la question de la psychanalyse, Louis-Paul, il a très bien expliqué ça, et je pense que c'est quelque chose à ne pas oublier, c'est cette histoire de la nostalgie. André Boltzinger, il en a parlé dans son travail sur l'histoire de la nostalgie, il a analysé en fait les thèses de médecine, où il montre très, très clairement qu'au début, nostalgie et mélancolie, d'un point de vue médical, n'étaient pas séparées. Et ça, c'est quelque chose de très important, sauf qu'à un moment donné, il se réfère surtout aux mercenaires suisses qui partaient en guerre. Donc, ils avaient cette nostalgie de leur patrie. Mais ils allaient mieux, en fait, ces soldats, quand ils parlaient soit avec des personnes du même accent ou quand ils chantaient des chansons de leur région, etc. Et puis ces personnes-là étaient vraiment malades avec des symptômes de schizophrénie. Il y en a qui étaient tellement malades qu'ils ne pouvaient plus se battre. Donc, c'était vraiment un problème de santé publique, en fait, dans ces années-là. Donc là, on est au 17e siècle, quand justement... Johannes Hofer, 1688 même, qu'il noue en fait, qui crée le mot nostalgie, ce néologisme à partir des origines grecques. Et d'un point de vue de la psychanalyse, c'est là que ça me paraît très important. Et puis bah, Freud d'ailleurs aussi a écrit un texte très intéressant qui s'appelle « La passagèreté ». C'est aussi cette nostalgie qu'on éprouve déjà parce que le temps passe. Il a appelé ça la passagèreté, ou il se réfère beaucoup à la question de l'éphémère en fait. Et là, la nostalgie dont tu parlais, là, Louis-Paul, la nostalgie en fait de la nostalgie même de désirer, on le voit beaucoup aussi dans beaucoup de systèmes politiques disparus. Je travaille avec des post-docs et doctorantes actuellement sur la nostalgie en ex-RDA, où justement la disparition de l'objet que l'on désirait, l'objet consumériste, au moment où il arrive, il y a comme une sorte de bonheur, mais finalement, les autres objets sont réinvestis autrement. Donc, c'est cette question de l'absence. Et peut-être un dernier point aussi qui me paraît important. Et là, peut-être ce serait une discussion à avoir parce que, oui, évidemment, c'est la question de ce qui a été perdu, donc la question de la perte. Puis, évidemment, justement, la psychanalyse est très importante, mais parfois, cette perte, ce n'est pas une perte que l'on vit, elle est là déjà quand on est là. La perte de savoir jamais je vais pouvoir accéder au pays d'où viennent mes parents parce qu'il y a eu la guerre, etc. Je ne peux pas y aller pour différentes raisons. Donc, cette question du déplacement est là où justement l'histoire de la nostalgie aussi d'un point de vue médical devient extrêmement important et qui continue jusqu'à aujourd'hui, sauf que dans les discours médicaux, on a complètement sorti la nostalgie des thèses de médecine puis de la recherche sur la dépression. Et c'est finalement la mélancolie, en fait, qui, dans l'histoire de la médecine, a été davantage liée aux questions de santé mentale et dépression. Mais pourtant, la nostalgie, elle était au début et je pense qu'elle est aujourd'hui davantage présente, peut-être pas sous forme de mal du pays, mais d'un mal du temps. Et ça, il y aura des travaux à faire là, avec des collègues en médecine, là, mais voilà, des beaux projets intersectoriels. Mais, donc, je pense que c'est Louis-Paul l'a expliqué par rapport aux années 80 et c'est très intéressant. Je pense qu'on pourra pousser ces réflexion sur la psychanalyse qui manque d'ailleurs encore un peu dans les recherches sur la nostalgie beaucoup plus loin.
Moi, je veux juste dire un truc parce que c'est vrai et merci beaucoup pour ces ajouts. Dans le fond, tu évoquais la question de la perte. En psychanalyse, surtout chez Freud, mais vraiment après Lacan, avec Lacan et après, il y a cette idée que la perte, elle est constitutive du sujet. Je veux dire, j'ai juste les terminologies en anglais parce que curieusement, on écrit beaucoup plus sur Lacan en anglais qu'en français depuis quelques décennies. On est centré sur une absence qui nous constitue. Il y a cette espèce de perte et cette perte, elle est toujours conçue avec rétrospective. Donc, avec Lacan, l'idée, c'est que c'est le langage, l'entrée dans le registre du langage qui génère cette perte-là, puisque finalement, les mots ne sont jamais suffisants pour les choses. Donc, bref, je m'égare. Mais merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment intéressant, la question de la perte. Là, c'est super important.
Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de repenser, évidemment, à ce côté, à cette marchandisation de la nostalgie, ce package nostalgie qui me paraît très, très clair dans les films hollywoodiens, évidemment, et qui me paraît très clair dans plein d'autres médias, puisqu'on parlait justement de la remédiation. Et c'est simplement que si je dois faire mon coming out, je fréquente parfois TikTok, les réseaux sociaux et TikTok en particulier. Et qu'il y a ces filtres qui existent, ces filtres rétro, notamment qui imitent le visuel d'une cassette VHS. Et c'est devenu très, très, très populaire sur TikTok, qui est fréquenté par des jeunes qui n'ont pas connu des années 80. Et j'ai découvert ce compte d'un jeune homme qui semble ne pas forcément aller très bien, ou à moins que ce soit une pause, c'est difficile de nos jours de savoir où s'arrête le simulacre et où commence la réalité, si elle existe encore. Et il semble totalement obsédé par les années 80. Il s'habille comme dans les années 80. Il a uniquement des posters des années 80. Il se met en scène avec ce filtre dans sa chambre entièrement dévouée des années 80. Et il nous montre des vidéos caméscopes de lycéens des années 80, avec des coiffures des années 80, etc. Et c'est tout son compte TikTok qui est comme ça. Et ça a beaucoup de succès. Donc voilà, simplement cet équilibre un peu précaire et étrange entre cette forme de mal-être qui semble être exhibée par ce jeune homme. Et puis ce simulacre et cette marchandisation à travers le filtre sur un réseau social tel que TikTok.
La question de la marchandisation là, me semble vraiment importante parce qu'elle s'observe maintenant aussi par rapport à ce que j'appellerais la nostalgie numérique. Donc, la nostalgie des premiers temps du web qui revient aussi des récits autour de « Ah, ça, c'est c'est le premier mail que j'ai envoyé autour des gifs animés qui maintenant sont vus comme ringards d'ailleurs. » Donc, on fait déjà partie de la génération ringarde du premier temps du web. Donc, ça aussi, ça existe là. Et parce que surtout dans les années 2000 encore, autour du web 2.0, on était encore dans des constructions très artisanales, en fait, aussi là. Donc, on retrouve les mêmes formes de nostalgie là aussi, comme au cinéma, autour d'un artisanat, de la blogosphère, MySpace, etc. Et puis, finalement, on se retrouve à nouveau dans la marchandisation, standardisation de certains formats. Donc, il y a aussi une forme de nostalgie numérique qui est là, mais qui relève, en fait, surtout des pratiques qu'il y avait autour. Et puis, peut-être aussi, pour revenir peut-être sur un autre film, je pense qu'il est important par rapport aux années 80, la nostalgie, je sais, Jean-Jacques Benet, qui avait fait le film en 81, Diva, qui est, voilà, où il y a Cynthia Hawkins, la chanteuse, qui ne s'est jamais entendue elle-même enregistrée. Et là, justement, les CD arrivent. Et puis, bah, pendant une de ses prestations musicales, une conteuse, chanteuse d'opéra, elle va être enregistrée, piratée. Donc, c'est aussi un peu l'histoire du piratage là, qui commence par rapport au numérique. Donc, c'est un film fascinant par rapport à cette nostalgie qui est presque à la Walter Benjamin, de Inc. et Nunc, du spectacle vivant, ici et maintenant, et qui finalement, aujourd'hui, revient à cause de toute cette standardisation et la sur-accessibilité de certaines formes musicales, etc. Donc, j'inviterai pour celles et ceux qui écoutent là, de voir ce film parce qu'on est à nouveau aussi dans cette complexité nostalgique-là qui est très, très intéressante par rapport à l'enregistrement même, en fait, d'un spectacle de musique ou d'une performance culturelle, etc.
Je trouve ça vraiment intéressant, cette intervention, parce qu'en plus, cette idée d'amener Benjamin aussi dans la réflexion, comme Katharina évoquait, ces premiers temps du web, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'arrivée récente des fameux NFT, les Non-Fungible Tokens, là, qui sont ces espèces, dans le fond, on tente de générer justement une authenticité, une aura avec quelque chose qui pourrait, en tout cas, selon la définition plus typique du terme, ne pas en posséder, parce que le numérique repose sur la reproduction perpétuelle de l'information. Il n'y a plus d'original. Alors, ce fameux NFT, c'est un objet qui, quand même, je trouve, porte à réflexion, finalement, et qui témoigne peut-être de cette nostalgie naissante, là, articulée directement dans le numérique, pour le numérique.
Oui, non, simplement, je voulais dire, parce que ça me faisait penser à ça, c'est une des références majeures, je ne sais plus si on l'a déjà mentionné, mais le livre Retromania de Simon Reynolds qui est essentiel, qui est publié en 2010, je crois, et qui est vraiment une des références pour essayer de comprendre ce phénomène de nostalgie, le calcul commercial et la marchandisation, évidemment, mais il y a plus en jeu que ça, et j'y pensais aussi parce qu'il a cette jolie réflexion par rapport à YouTube et à la présence de l'archive constante, l'anarchive, comme il qualifie YouTube, qui explique qu'on ne peut plus se débarrasser du passé. Tout est archivé, tout est présent en quelques clics sur la référence YouTube, d'autres bases de données, mais après, c'est vraiment YouTube. Des jeunes gens, aujourd'hui, peuvent tout voir, tout connaître, et il est difficile de s'abstraire de l'original, et quand un remake sort, on aime le comparer à l'original. Donc, c'est aussi ça le charme du reboot, notamment, c'est de voir la variation qu'il y a avec l'original. On ne va pas se contenter de simplement refaire, mais on veut ces variations, et on va ensuite trouver du plaisir à débattre et discuter des infimes variations et références et clins d'œil et easter eggs, comme on dit, par rapport aux originaux qui sont tous disponibles aujourd'hui et qui sont tous largement connus en général du public, y compris jeunes, quoi. Et donc, ce facteur-là technologique, il me semblait important de le rappeler parce qu'il est, je crois, effectivement fondamental.
Oui, c'est un point important et je pense que malgré cette surprésence du passé, là, qui est une accumulation en fait possible du passé en ligne, je pense que la seule problématique là-dedans, c'est pas une archive très organisée, accessible et qui crée aussi des inégalités sociales d'accès. Peut-être aussi une surreprésentation à cause des publicités aussi que sur ces fameuses plateformes où finalement il y a aussi beaucoup d'éléments du passé qui malheureusement ne sont pas accessibles. Et je pense que voilà, ça a quand même généré des mouvements importants, comme par exemple en Afrique, l'enregistrement de vinyle, numérisation de vinyle, en fait, pour garder aussi vivant certaines cultures qui sinon seraient complètement vouées en fait à la disparition. Donc je pense que Midi, tu as complètement raison, il y a cette surprise de l'accès constamment en fait, au passé, où avant, il fallait ressortir la cassette, aller jusqu'au point pour retrouver la chanson que vous voulez écouter, ou attendre à la radio pour qu'enfin elle repasse, puis l'enregistrer, puis la publicité passait par-dessus, donc on n'avait pas l'ensemble de la chanson. Tout ça, aujourd'hui, c'est révolu, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de patrimoine, si on peut utiliser le terme ainsi, qui est voué en fait à sa disparition. Et là, je pense que ça a beaucoup de contenu aussi justement autochtone quand on pense aux archivages, par exemple à Radio-Canada, etc., qui malheureusement aussi là n'est parfois pas complètement tenu compte dans les politiques d'archivage où voilà, les grandes plateformes de toute façon ne s'y intéressent pas forcément. Mais avec un peu d'espoir, il y a quand même à ce niveau-là aussi souvent soit des fans ou des subcultures qui arrivent à en quelque sorte faire remonter aussi un passé qui normalement ne serait pas accessible pour une grande population forcément. Donc je pense que c'est encore d'autres enjeux, mais ça me paraît important par rapport à la diversité nostalgique, si on le veut le dire comme ça, et aussi le potentiel qu'il a derrière d'un point de vue politique aussi et d'émancipation, hein, peu importe laquelle. Puis c'est Nadia Yalakizukidi qui est philosophe, surtout de la philosophie africaine, qui a fait vraiment aussi un travail très intéressant par rapport à le potentiel d'émancipation de la poésie, par exemple, pour un engagement politique. Elle cite beaucoup Senghor ici, mais aussi d'autres. Donc, c'est aussi des pistes intéressantes parce que, justement, en critiquant Mehdi Lafel, la question de la marchandisation, de la nostalgie, ça n'empêche pas que derrière ces nostalgies parfois ludiques se cachent des nostalgies vraiment plus profondes qui concernent, je pense, des préoccupations planétaires autour de l'écologie, la question de la matérialisation, mais aussi voilà, cette illusion que le numérique n'est pas matérialisé. Donc, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier la réelle quête. Et on revient à la psychanalyse, là, aussi, en quelque sorte, que la question de la perte qui est imminente, là, pour nous toutes et tous. Et puis que parfois, évidemment que c'est joyeux de revoir des vieux films ou de voir des remakes ou des choses qui reviennent. Malheureusement, parfois, on oublie peut-être l'origine même d'une véritable nostalgie, en fait, qui se cache aussi derrière. Donc, je pense que c'est cet enjeu-là qui est intéressant sans analyser aussi. Je pense qu'on l'a fait aujourd'hui, donc je trouvais ça vraiment sympa.
Oui, je suis complètement d'accord, mais c'est vrai que de relire récemment pour un autre projet les écrits, alors ça a pris un coup de vieux maintenant, mais sur le post-moderne, sur le simulacre, etc., sur Disneyland, je ne peux pas m'empêcher, en réfléchissant à notre émission aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, quoi. C'est cette mise en scène, c'est une mise en scène totale d'un passé qui n'a jamais existé et qu'on transforme complètement. Exact. Qu'est-ce que c'est que tous ces films, si ce n'est finalement de nouveaux secteurs qu'on ajoute toujours à ce Disneyland qui est maintenant virtuel peut-être, mais qui ne cesse de progresser toujours et encore.
Le simulacre nostalgique de Baudrillard, il aurait été content.
Exactement. Puis, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Katharina, au début, je ne peux pas m'empêcher quand même d'imaginer avec effroi ce que pouvait être la cinéphilie à une époque où, pour voir un film ou revoir un film, il fallait attendre qu'il ressorte au cinéma. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les spécialistes du cinéma d'autrefois qui avaient donc une très bonne mémoire. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, moi, qui me fascine. Et puis, moi, je me rappelle de mon enfance, c'est le vieux moi qui parle, où il fallait quand même être dépendant des diffusions télévisées pour pouvoir revoir un film. Donc, il y avait ce rapport quand même au film, qui était, il y avait des VHS, effectivement, mais qui était quand même assez différent de ce que maintenant est de simplement en quelques clics, en téléchargeant, en streamant, etc., on peut avoir accès à tout et n'importe quoi. Donc, c'est vrai que c'est un rapport à l'artefact qui me semble fondamentalement différent.
Eh bien, parlant de nostalgie, peut-être pour conclure, j'en sais rien, mais moi qui ai vécu une enfance où le VHS n'existait même pas, ma fille aujourd'hui qui a 30 ans, le jour où elle avait, je ne sais plus, 7-8 ans, et je lui ai dit que pour voir un film de Noël, il fallait attendre Noël l'année suivante parce qu'on ne pouvait pas enregistrer, elle refusait de me croire. C'est-à-dire, si là, le passé était disparu. Le passé ne pouvait pas avoir existé comme je l'avais connu. Autre image de la nostalgie.
Oui, je pense qu'effectivement, ça va être une excellente conclusion qui nous amène à aujourd'hui, la matérialité de la nostalgie, puis les supports. Et puis, d'ailleurs, on voit de plus en plus de plateformes qui essaient des critérions ou au Québec éléphant, tout ça, qui essaient de retrouver une façon de valoriser toutes ces films aussi qui étaient amenés à disparaître parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on a accès à tout, mais en fait, pas de temps. On a accès à ce qu'on veut bien qu'on ait accès, qui est très, très, très ciblé. On allait dans les dans les boutiques de vidéos et puis on avait accès à quand même beaucoup plus de films qu'on peut y avoir accès maintenant sur Netflix ou mine de rien, hein, on ne se rend pas compte, mais quand même, il y a eu une vraie perte de ce côté-là. Et puis inversement, on a quand même un certain nombre de créateurs qui se tournent vers le 70 mm, qui veulent absolument que ça sorte sur le grand écran. Par exemple, justement, Last Night in Soho dont je vous parlais, il n'est jamais sorti en streaming et puis il va peut-être finir par le faire, mais pour l'instant, il est sorti en DVD. Donc, pour le réécouter, j'ai dû aller l'acheter en DVD chez Archambault. Donc, il y a vraiment quand même des cinéastes qui sont encore très, très attachés à ce support-là. Puis d'ailleurs, Edgar Wright en parlait beaucoup pendant la pandémie en entrevue parce que c'est parce que c'était pendant la pandémie que pour lui, c'était particulièrement important que ça sorte sur les écrans parce qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, c'est devenu aussi une tension entre ce qui est possible, entre ce qui est même légal au temps de la pandémie. Hein, la sortie sur les écrans n'était même pas possible. Donc, je pense que ça a créé un désir d'une certaine façon d'un retour sur les écrans. Donc, je voudrais vous remercier tous beaucoup pour cette discussion passionnante, honnêtement, qui a beaucoup, beaucoup de perspectives différentes que je n'imaginais pas forcément. Donc merci beaucoup et à la prochaine.